Vous êtes sur RTL.
Il est 12h30.
RTL.
Puisque vous partez en voyage,
le journal inattendu part en voyage.
Mon chéri, je pars avec vous.
12h30, 13h30.
Suivez le guide. On the road.
Philippe Blohagen est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Bonjour Philippe Blohagen et merci d'être avec nous.
Merci de m'inviter.
Merci d'être là pour une heure, pour être le rédacteur en chef du journal inattendu. Vous qui tenez ce rôle depuis des années pour le livre le plus vendu en France. Plus de 50 millions d'exemplaires depuis 1973 pour le Guide du Routard, dont vous êtes le créateur, mais pas seulement, puisque le Routard est le seul guide de voyage à être à ce point incarné par un homme, vous en l'occurrence. Au départ, une idée alternative au voyage traditionnel, pour tous ceux qui veulent découvrir en sortant des grands axes l'authenticité d'un pays, d'une région, d'une ville. On va donc bourlinguer avec vous, voir comment le routard des années 70, cheveux longs, sac à dos, patogas, a traversé les décennies, marqué, c'est vrai, par le tourisme de masse. Vous nous donnerez, j'espère, quelques bonnes idées voyage pour cet été 2019. On partira en balade en bateau-mouche avec votre invitée Charlotte Bruel, qui sera avec nous à 13h. Et puis, vous nous ferez découvrir avec votre reportage l'ONG Agir pour le Cambodge, qui vous est très très cher et qui propose aux jeunes qui n'ont quasiment rien une formation dans une école hôtelière et un emploi assuré. On découvrira vos choix musicaux, vos répliques fétiches du cinéma. Va y avoir des surprises, c'est certain. Dans un instant, l'info que vous pourrez commenter si vous le souhaitez. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, cher Philippe Blohagen. Vous devez vous tirer le portrait.
Eh bien écoutez, je suis un beurre breton puisque je n'ai pas vécu en Bretagne, né en banlieue parisienne avec des racines finistériennes, père instituteur, ce qui m'a donné un peu le culte de la bonne note et du travail bien fait. Donc à 16 ans, j'ai eu le bac, puis une école de commerce, mais mon avenir n'était pas là. J'ai fait des études supérieures, surtout pour faire plaisir à mon père, pour tout vous dire. Moi, je voulais faire votre métier, Vincent.
Ah,
je voulais être journaliste.
Mais vous l'êtes un petit peu, d'ailleurs.
Voilà, c'est-à-dire être payé pour voyager, découvrir le monde, tout en se cultivant, ce que vous faites tous les jours. Et j'ai réussi mon pari en créant le Guide du Routard, c'est-à-dire le métier de mes rêves. Une équipe part maintenant tous les deux jours en voyage pour découvrir des lieux fabuleux, des hôtels de charme et abordables, des restos exceptionnels. Faire connaître ce que l'on découvre, nous, dans notre travail. Ce que les gens savent moins, c'est que le Guide du Routard a été refusé par 19 éditeurs. Or, maintenant, le Guide du Routard papier et routard.com fait vivre à peu près 120 personnes. Donc, Vincent, si vous avez un projet, tenez, qui vous tient à cœur, tenez bon.
Un beurre breton, hein, voilà, à la tête du journal inattendu jusqu'à 13h30 sur RTL. On commence par l'actualité de ce samedi 22 juin, dominé par un dramatique incendie ce matin à Paris. 3 morts, un blessé grave dans le 11e arrondissement. Il y a également une trentaine de blessés plus légers. La ville de Belfort, derrière les salariés de General Electric. Les commerces doivent baisser leurs rideaux cet après-midi. Les tensions États-Unis-Iran. Téhéran avertit ce matin que la moindre attaque américaine aurait des conséquences dévastatrices dans la région. La veillée d'armes pour les joueuses de l'équipe de France de football avant d'affronter le Brésil demain. Mais évidemment, ce qui domine l'actualité, Philippe Blohagen, dans l'actualité comme dans les discussions, c'est la météo. Alors, pas encore celle d'aujourd'hui, Anthony Casmaret, car aujourd'hui, on va encore pouvoir savourer une douceur agréable.
Effectivement, douceur agréable avec des températures qui iront de 21 à 30 degrés, donc c'est frais par rapport à ce qu'on aura la semaine prochaine. On aura 23 à Brest et à Strasbourg, 25 à Lyon, 27 à Paris et Toulouse et 30 à Nîmes. Et puis, côté ciel, une belle journée avec du soleil, du nord à l'Île-de-France, au centre et dans le sud-ouest, et encore quelques orages près des frontières de l'Est entre le Jura et les Alpes du Sud.
Mais en revanche, Anthony, à partir de demain et surtout en début de semaine, donc la plus grande partie du pays va être concernée par la canicule, une canicule qui risque d'être très très désagréable.
Effectivement, et inédite pour un mois de juin avec déjà demain de fortes chaleurs, 30 à 33 degrés du nord au sud, et puis dès lundi la canicule s'installe à l'est et elle touchera toute la région à partir de mardi, et le paroxysme de cette vague de chaleur ce sera pour mercredi et jeudi où on attend 35 à 41 degrés, nous dit Météo France, sur le centre, le centre-est et l'Île-de-France. France. Donc prudence, le ressenti sera très lourd, très pesant et très humide pour le corps.
Eh bien merci, on est quand même prévenus. Merci Anthony. Et je vous dis pas à tout à l'heure, parce que tout à l'heure à 13h, ce sera vous, monsieur Météo, Philippe Lohagen.
Avec plaisir.
Journal inattendu sur RTL.
Un incendie s'est donc déclaré tôt ce matin à Paris dans le 11e arrondissement. Les conséquences sont dramatiques. Le bilan est de 3 morts et d'une trentaine de blessés, dont un très grave. Morad Jabari, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, le feu s'est déclaré dans une cage d'escalier vers 5h du matin. Il s'est ensuite très vite propagé à un restaurant, à un hammam, puis dans deux autres immeubles. Julien est boulanger, il était là ce matin.
On a entendu des cris. Une dame criait à l'aide plusieurs fois. Je vous avoue qu'on a vu beaucoup de fumée dans la rue, du coup on ne s'est pas aventuré dehors. Les pompiers, ils sont intervenus super vite. J'ai pas vu tant de flammes que ça, il y avait beaucoup de chaleur. Dans la rue, il faisait chaud et on sentait une vraie odeur de brûlé. Mais on n'a pas vu les flammes sortir de l'immeuble en donnant le petit déjeuner aux pompiers. Ce matin, ils m'ont dit que ça a été un incendie qui était pas évident.
Même très compliqué, ces immeubles anciens de 4 étages des années 70 sont difficiles d'accès. Les pompiers ont évolué dans le noir, effectué une quinzaine de sauvetages dans les appartements. Marc, un voisin, a été réveillé ce matin par les cris et les sirènes de pompiers.
On a vu des victimes qui ont été donc sorties après, c'était une bonne heure après, et qui étaient pieds nus, qui étaient en état de choc, hein, qui ont été pris en charge par le SAMU. C'est très choquant. On est tous inquiets par rapport aux gens qui sont à l'intérieur, parce qu'on forcément, on les connaît.
Au plus fort de cet incendie éteint il y a à peine une heure, plus de 200 pompiers étaient mobilisés. On ne connaît pas l'origine de ce feu pour le moment. Mais vous le disiez, le bilan est lourd. 3 personnes sont mortes, dont une qui s'est défenestrée. Une autre est dans un état grave. 27 habitants sont blessés, plus légèrement, dont un pompier. Les rescapés ont trouvé refuge dans la salle des fêtes de la mairie du 11e. Il serait environ une vingtaine.
Morad Jabari dans le 11e arrondissement de Paris pour RTL. Et puis dans l'actualité également, il y a les interrogations autour de la mort d'une chercheuse de l'INRA. La semaine dernière, une femme de 33 ans décédée de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle aurait été contaminée en 2010 dans le cadre de son travail à l'Institut National de Recherche Agronomique. Sa famille a décidé de porter plainte pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. On marque une courte pause dans le journal inattendu de Philippe Glohagen, le patron du Guide du Routard. Et dans un instant, on ira à Belfort, une ville et même un territoire d'ailleurs qui soutient les salariés de General Electric. A tout de suite.
Comme le journal inattendu sur RTL avec Philippe Glohagen et Vincent Parisot.
À Belfort, le bras de fer continue autour du plan social annoncé le mois dernier par General Electric. Un plan qui prévoit, je vous rappelle, plus d'un millier de suppressions de postes, dont 800 sur Belfort. Hier, plusieurs centaines de salariés ont empêché la tenue de la première réunion d'information sur ce plan social. Alors, une nouvelle réunion est prévue mercredi prochain. Mais en attendant, la ville et même la région soutient le personnel de General Electric. Une grande manifestation est prévue dans un petit peu plus d'une heure, à 14h, en présence notamment de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, mais de nombreux autres élus de la région. Les commerçants ne sont pas en reste. De nombreux magasins devraient baisser leurs rideaux en début d'après-midi. Je vous propose d'écouter le représentant de la CFE-CGC, Philippe Petit-Collin. Il est au micro RTL de Dimitri Ramelot.
Ce sera l'une des plus grosses mobilisations qu'a connue la ville de Belfort. Tout le territoire se sent mobilisé. C'est l'avenir de milliers de familles qui sont en jeu aujourd'hui. Il faut absolument que le débat prenne une dimension nationale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup de monde. 1 060 emplois, 800 dans le gaz et 200 dans les services partagés. C'est considérable pour une ville de 50 000 personnes. 1 000 salariés, c'est à peu près 2 000-3 000 sous-traitants, 1 000 emplois encore indirects dans les commerces, etc. C'est une attaque contre le territoire. Aujourd'hui, c'est tout le territoire qui va rentrer en résistance. Mobilisation totale de tous les élus, de tous les acteurs économiques. Aujourd'hui, c'est un message très clair qui est envoyé à la direction de GE et au gouvernement pour qu'ils fassent respecter les accords, des accords qu'ils ne respectent pas, qui étaient la condition du rachat de la branche individuelle d'Alstom. Aujourd'hui, les garanties n'y sont pas. Aujourd'hui, on a besoin que le plan s'arrête, d'avoir un nouveau projet qui garantisse la pérennité de la turbine à gaz à Belfort. On est déterminé jusqu'au bout, tous les salariés sont derrière nous, toute la population derrière nous. Maintenant, il faut que les politiques nationales adhèrent et qu'il y ait un retentissement qui soit national pour faire bouger le gouvernement.
Voilà, ce représentant de la CFE-CGC, Philippe Petit-Collin, au micro RTL de Dimitri Ramelot, dont grande manifestation cet après-midi à partir de 14h. Sur le plan diplomatique, après la montée de tension entre les États-Unis et l'Iran de cette fin de semaine, Téhéran réagit ce matin. Tirer une balle en direction de l'Iran mettra le feu aux intérêts de l'Amérique et de ses alliés dans la région. Voilà ce qu'a déclaré le porte-parole de l'état-major des forces armées iraniennes. Déclaration qui fait suite à la décision de Donald Trump d'annuler in extremis des frappes sur des cibles iraniennes. Opération opération qu'il a jugée finalement disproportionnée face à la destruction d'un drone. Dans ce contexte, d'ailleurs, Donald Trump a nommé un nouveau ministre de la Défense, Mark Esper, qui doit encore recevoir le feu vert du Sénat américain. Juste peut-être, non pas une réaction à ce bras de fer États-Unis-Iran, Philippe Glohagen, mais justement sur l'Iran. L'Iran qui s'est un petit peu ouvert au tourisme ces dernières années. Vous, je crois que lors de votre premier voyage, vous avez traversé l'Iran en 70, 71.
En 71, quand j'ai parcouru la route des Indes jusqu'au Népal. Et je n'ai jamais fait, je vous l'avoue, de guide du routard sur l'Iran.
Pourquoi donc ?
Bien, écoutez, je trouve qu'ils ont une politique anti-gay inadmissible. Ils considèrent les homosexuels comme des criminels, ce qui est un scandale. Mmh. Être homosexuel, c'est une qualité, c'est une particularité, comme il y a des roux, il y a des chauves, il y a des blancs. Et
c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de guide du routard sur l'Iran.
J'ai pas envie de faire la promotion d'un pays qui est tenu par des religieux qui ne sont pas encore ouverts à ce genre de choses qui est devenu banal et qui n'est absolument pas un crime, bien entendu. Qu'ils regardent les calendriers, nous sommes en 2019.
On reparlera de toute façon de la philosophie du routard tout à l'heure. Je voudrais qu'on termine par le Salon international du Bourget, 53e du nom. C'est le plus grand du monde. Pas moins de 150 appareils vont être présentés cette année, avec des vols de démonstration tout le week-end, aujourd'hui samedi, demain dimanche, évidemment, beaucoup de monde pour les admirer. Pierre Julien au Bourget pour RTL.
Oui, le show aérien vient juste de commencer. Vous aurez un peu de mal à entendre le passage du premier appareil qui évolue devant moi. C'est en effet un planeur, mais quelle élégance, quelle dextérité. Son pilote est un acrobate du ciel. Le public se presse dans les halls. Gros succès chez Dassault qui propose 4 cockpits de pilotage virtuel du Rafale. Ça se bouscule pour prendre les commandes. Delphine a eu cette chance. Quelques minutes de presque comme du vrai.
Bah, c'est une expérience assez inoubliable parce qu'on peut vraiment sentir monter en altitude, descendre, gérer à droite. Donc plein de surprises pendant cette expérience.
Prêt à embarquer à bord du vrai Rafale?
Ah bah là oui, si j'ai l'opportunité, je monte dedans sans hésitation. Ouais.
Allez, je ne vous mens pas, il y a bien 100 mètres de queue pour monter à bord du Mirage 2000 de l'armée de l'air et 3 fois plus pour mettre les pieds dans l'A400M de transport militaire avec ses énormes hélices aux 8 pales de 5,30 m de diamètre. Sébastien et Astrid comptent les minutes, voire plus.
Une heure et encore je suis gentil, je pense. Pas le choix. Tout le monde veut rentrer dans l'avion, je pense.
Et vous l'accompagnez ?
Oui.
Quoi, c'est lui ou c'est l'avion ?
Bah, c'est lui.
Voilà, en tout cas, courage et patience pour ceux qui veulent monter dans ces appareils. Encore un mot d'actualité, c'est du sport, Philippe Glohagen. Demain soir, du football. L'équipe de France féminine joue son 8e de finale du Mondial face au Brésil à 21h au Havre. Les derniers billets disponibles du stade Océane, d'une capacité de 25 000 places, ont été vendus en moins d'une heure. Le stade donc sera plein comme un œuf et vous pourrez évidemment suivre le match sur RTL dès 20h la soirée, donc pour suivre en intégrale cet événement, coup d'envoi 21h. Aujourd'hui, deux rencontres, Allemagne-Nigeria à Grenoble à 17h30, Norvège-Australie à Nice ce soir. Sachez aussi qu'il y a de la Formule 1 au programme avec demain le Grand Prix du Castellet, les qualifications à partir de 15h10. Vous intéressez au sport, à la Formule 1, au football ou pas
tant que ça, mais je suis très bleu avec un E à la fin.
Ah, très bien. Donc vous soutenez les filles de l'équipe de France. Allez, on part en voyage. Voilà, on a le guide du routard dans la poche et à l'aéroport, tiens, on prend un chariot, c'est normal.
Oh, il est à moi le chariot là, hein.
Mais vous fâchez pas, pas marqué dessus qu'il est à vous le chariot.
Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot.
Mais je vois un chariot vide sur le trottoir, je le prends. Si vous voulez le garder, fallait pas le lâcher.
Mais je ne l'ai pas lâché, j'ouvrais mon coffre pour sortir mes valises.
Bon, bah, laissez-lui son chariot, allez, venez. Non mais permettez, c'est monsieur Magret, je vois pas pourquoi je me laisserais faire.
Enfin quoi, merde, je fais des kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche.
Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti ? Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais.
Eh ben, tire-toi alors.
Vous avez de la chance.
Gros connard.
Oh. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds.
La chèvre, évidemment, 1981, Pierre Richard, Gérard Depardieu. Pardonnez-moi cette démonstration de force, j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Vous avez choisi cet extrait, cette réplique, parce qu'elle raconte un peu quelque chose de vous ou pas? Il y a une forme de zénitude aussi chez vous?
Je crois que effectivement, lorsque on part à l'étranger, il ne faut jamais oublier que l'étranger, c'est nous. Donc, être très cool, et quand on ne connaît pas la langue, la meilleure des langues, c'est le sourire. Et dans le guide du routard, c'est ce qu'on enseigne.
Bon, en tout cas, les problèmes de chariot, il y en a de moins en moins, parce qu'on utilise de moins en moins les chariots. Maintenant, les valises ont des roulettes. Alors, restons zen, justement, comme vous nous le proposez. Partons en voyage. Avec quelle destination? Je voudrais vous demander, il y en a une qui revient en force et qui fait son retour après plusieurs années difficiles dues notamment aux terroristes, c'est le Maroc. C'était la 45e destination en 2017, c'est la 8e aujourd'hui, ça veut dire que on retourne au Maroc, et tant mieux.
Et à juste titre, le Maroc est un pays extraordinaire, les Marocains sont un accueil formidable, et je suis ravi que la période des attentats soit oublié. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a plus eu d'attentats à Paris qu'au Maroc. Il n'y a eu que Marrakech et Casablanca. Donc, retourner au Maroc, c'est complètement sécurisé, bien entendu.
Alors, si aujourd'hui on va au Maroc, qu'est-ce qui est, selon vous, immanquable?
Ben d'abord, tout dépend de l'époque. Si vous arrivez en été, allez plutôt vers Agadir pour profiter de la mer,
du vent.
Du vent. C'est un pays quand même qui est très chaud. Même si Marrakech est en altitude, on l'oublie. Souvent, par contre, la basse saison, que ce soit l'automne ou le printemps à Marrakech, c'est fabuleux.
Donc vous conseillez plutôt hors saison pour aller à Marrakech. Parlons du Portugal, qui reste la destination numéro un. C'est d'ailleurs assez étonnant. Qu'est-ce que les routards français, les vacanciers, vont chercher au Portugal?
Eh bien, il y a une chose.
Pas forcément la chaleur de la mer, par exemple, parce qu'elle est froide.
Oui, c'est l'Atlantique, donc il fait frais, elle est assez agitée. Ouais,
elle est plus froide que chez nous.
Oui, absolument. Je vous dirais qu'il y a deux choses qu'on oublie sur le Portugal, outre l'intérêt fiscal qui est très mineur en définitive, c'est que pendant 40 ans, le Portugal a vécu sous une chape de plomb avec un dictateur qui s'appelait Salazar. Or, ce bonhomme voulait ne parler qu'à Dieu et s'intéressait absolument pas à l'industrie. Donc, l'agriculture, comme Pétain d'ailleurs, fait que le pays n'a pas du tout été abîmé. Alors, malheureusement, les Portugais ont été obligés d'immigrer. Ça a été une horreur pour eux sur deux générations. Mais quand on voit maintenant le Portugal, c'est un pays qui est intact. Il n'y a pratiquement pas d'usines. Et la deuxième chose, le tiers des Portugais parlent français.
Tiens, une question maintenant en français, celle de l'invité de la semaine dernière. Il s'agissait de l'écrivain Laetitia Colombani. Écoutons ce qu'elle voudrait savoir.
Bonjour Philippe, c'est Laetitia Colombani. Je voulais vous demander quel est l'endroit du monde qui vous fait rêver et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter.
Alors, est-ce qu'il y a un endroit du monde d'abord que vous n'avez pas eu l'occasion de visiter, et quel est ce lieu qui vous fait rêver et où vous n'êtes pas encore allé? Au bout du monde, j'imagine.
Laetitia et Vincent, ça va vous surprendre. Il n'est pas nécessaire de faire des milliers de kilomètres pour trouver des endroits que je ne connais pas encore. Et moi, je suis très tenté par un hôtel incroyable qui vient d'ouvrir. C'est un scoop que j'offre à RTL. Il vient d'ouvrir en Bretagne, au Conquet, donc qui est l'endroit le plus à l'ouest de France. Bon, il y a un inconvénient, il est le plus proche de Trump, mais à part ça...
Ouais, enfin, il y a de la marge encore.
Il y a de la marge. Il y a cet hôtel qui s'appelle l'hôtel Sainte-Barbe, est construit sur pilotis, face à la mer d'Iroise. C'est la mer la plus démontée, donc la plus belle, face à Ouessant. Et vraiment, c'est une histoire qui ravive mes racines bretonnes. Ouais. Et dès que je peux, je vais à l'hôtel Sainte-Barbe.
Vous rêvez d'y aller sur cet hôtel sur pilotis en pleine mer d'Iroise, vous nous donnez envie. Tiens, on va marquer une pause. On va poser le sac à dos deux minutes avant de voir ce qu'il y a dans la tête du routard. On the road again, I'm on the road again. I'm so tired of crying.
I'm on the road again.
Tranquille.
Le journal inattendu sur RTL avec Philippe Glohagen et Vincent Parisot.
Évidemment, Revolution, les Beatles dans la version alternative blues pop. C'était en 68, les Beatles enregistraient l'album blanc au retour de leur séjour en Inde. C'est aussi pour ça que vous avez choisi ce titre, ou s'il ouais. symbolise quelque chose pour vous ?
C'était vraiment pour moi le début du routard. J'ai été élevé au grain avec les Beatles, Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band, et donc Let It Be, vous l'avez évoqué.
Et donc le guide du routard allait naître 4 ans plus tard, derrière cette première édition, donc 1971, hein, et toutes celles qui allaient suivre. Il y a une philosophie que vous avez expliquée dans Une vie de routard, c'est un livre qui est sorti il y a quelques années. Vous avez cette formule, le bonheur existe, je vais à sa rencontre. Ça veut dire que le bonheur existe, mais qu'il est ailleurs, forcément ?
Non, pas forcément ailleurs, mais c'est un travail. C'est-à-dire que pour moi, le bonheur, il faut aller le chercher. Il se trouve que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie, des parents aimants, et sans trop d'argent d'ailleurs, puisque fils d'instituteur. Mais je suis tombé malade, et pour garder le bonheur, par rapport au désastre que j'ai vu dans les hôpitaux, où j'étais sauvé par des médecins, il faut vraiment aller le chercher.
Et à cette occasion, d'ailleurs, vous avez perdu la foi. Vous étiez d'une culture
chrétienne, catholique, et c'est vrai que j'ai vu trop de malheurs, trop de souffrances, surtout avec les enfants. Ouais. Parce que s'il y a quelqu'un d'innocent, et c'est sûr, ce sont les enfants. Et au pavillon des cancéreux de 5 ans, les cris des gamins qui avaient des leucémies, et qu'on pouvait d'ailleurs même pas donner de morphine, c'est inadmissible. Et je me suis dit à ce moment-là, si Dieu existe, il faut le virer.
Le baba des années 70, fasciné par la route des Indes, a laissé la place aux bobos, plus fortunés, peu enclin à dormir dans les auberges de jeunesse, comme vous le faisiez au début. Vous vous êtes adapté, est-ce que vous avez réussi, et comment vous avez réussi à ne pas perdre un peu votre âme, justement ?
Mais parce que ça n'a aucune importance. J'ai eu l'occasion effectivement d'aller dans des endroits absolument merveilleux. J'ai vécu sur le sable avec ma femme 10 jours avec les Touaregs, dans des conditions extrêmement rustiques. Et j'ai appris tellement de choses à lire dans les étoiles, l'orientation, la façon de vivre dans le désert, que l'inconfort n'a aucune importance. Et dans le désert, il y a mais pas d'hôtel étoilé, parce que les étoiles sont dans le ciel.
J'ai envie de vous demander si le routard fait de la politique. Si je vous pose cette question, c'est qu'en 2015, vous avez publié un guide, Hello, guide gratuit à destination des migrants pour les aider dans leur démarche. C'était un acte militant.
Alors, c'est pas du tout un acte politique, c'est un acte humanitaire. Moi, mon grand principe, c'est que j'ai rencontré évidemment plein d'Africains en Afrique, plein d'Asiatiques pauvres, et quand les migrants sont venus, c'est pas des gens qui sont venus pour prendre notre travail. Ils vivent un désastre. Je vais vous raconter une seule anecdote que personne ne connaît, c'est que lorsque la guerre de 14 a démarré, les Allemands, l'armée allemande a commencé par la Belgique. Ouais. Et il y a eu, en août 14, 1 800 000 Belges qui se sont réfugiés en France. Eh bien, personne n'a gueulé. On a accepté cette venue. Mais incroyable, c'était un raz-de-marée. Et ils ont été acceptés. Alors, pensons à nos amis belges qu'on a si bien, que nos grands-parents ont si bien accueillis. C'est à notre tour d'accueillir quelques Africains qui n'ont pas eu la chance d'être dans des pays bien gouvernés avec le réchauffement climatique. Et
c'est notre rôle de le faire.
Mais bien sûr, ça s'appelle l'entraide et c'est l'humanisme. Et on ne s'intéresse pas à la politique au routard, mais c'est vrai que l'homme est au milieu du Guide du Routard.
Philippe Blouhagen, le patron du Guide du Routard, rédacteur en chef de ce journal inattendu jusqu'à 13h30. On marque une courte pause et puis dans un instant, on accueille son invité et on va aller se balader sur la Seine. A tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Il est 13h01.
Journal inattendu de Philippe Blouhagen.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Et l'actualité de ce samedi 22 juin est dominée par un dramatique incendie ce matin à Paris. 3 morts, une trentaine de blessés, dont un grave dans le 11e arrondissement. Le feu a pris dans une cage d'escalier d'un immeuble de 6 étages de la rue Nemours. 200 pompiers ont été mobilisés. Pour l'instant, l'origine du feu reste inconnue. Une enquête a été ouverte. La ville de Belfort, derrière les salariés de General Electric, une grande manifestation est prévue à partir de 14h. C'est en fait toute la région qui se mobilise après l'annonce d'un plan de plus d'un millier de suppressions de postes, dont 800 sur Belfort. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise a fait le déplacement, tout comme de nombreux élus du secteur. Les commerces de la ville sont appelés à baisser leurs rideaux cet après-midi. Les tensions États-Unis-Iran, Téhéran avertit que la moindre attaque américaine aurait des conséquences dévastatrices dans la région. Après avoir annulé in extremis des frappes sur des cibles iraniennes, Donald Trump a annoncé par ailleurs la nomination d'un nouveau ministre de la Défense, qui doit encore être validée par le Sénat. Veillée d'armes pour les joueuses de l'équipe de France de foot avant d'affronter le Brésil demain soir à 21h en 8e de finale du Mondial au Havre. Le stade Océane sera plein comme un œuf. Les derniers billets mis en vente hier sont partis en moins d'une heure. Et puis le temps, c'est vous. C'est vous, monsieur Météo, Philippe Blouhagen. Alors on vous écoute.
Eh bien, c'est une très belle après-midi qui s'annonce sur une grande partie du pays. Beaucoup de soleil, on s'en doute, au nord et à l'ouest, malgré un voile nuageux très fin. Beau soleil également près de la Méditerranée et encore quelques orages près des frontières de l'Est, surtout entre le Jura et les Alpes du Sud. Les températures cet après-midi, elles sont en hausse, prévoyez 23 degrés à Brest, 24 à Lille, 27 à Paris, 28 à Montélimar et 30 à Nîmes. Fraîcheur bien agréable à Lacouarde sur l'île de Ré avec 22 degrés.
22 degrés. C'est vrai qu'on est bien sur l'île de Ré. Vous y êtes bien sur l'île de Ré. Ça fait plus de 30 ans que vous y êtes. Vous avez trouvé votre place là-bas.
Oui, j'ai découvert l'île de Ré grâce à ma femme qui venait toute gamine. Et ce qui est formidable à l'île de Ré, je vais vous faire une confidence, c'est que vous êtes parisien, vous êtes versaillais, ils s'en foutent.
C'est vrai.
Du moment que vous êtes sympathique. Non. Et il y a un accueil. Mes meilleurs copains sont rétés.
Et l'île de Ré n'a pas perdu de son âme avec le pont, avec l'arrivée de nombreux touristes.
Alors, ce qui est très intéressant, l'île de Ré a 10 communes.
Ouais.
Politiquement, ils sont évidemment les maires très très différents, mais ils ont tous un point commun, mais alors qui est majeur, ils sont écolos. Et grâce au péage du pont, eh bien, ils récupèrent de la manne pour entretenir le parc naturel qui accueille tant d'oiseaux du monde entier. Les permis de construire sont drastiques et l'île de Ré, on s'y sent bien.
Et c'est pour ça aussi que vous vous y sentez bien. Tiens, allons-y avec Louis.
Maman, c'est toi la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie.
Maman, tu es la plus belle du monde, Luis Mariano, évidemment. Pourquoi ce choix pour votre maman?
Oui, parce que je l'ai perdue il n'y a pas très longtemps. Et au cimetière, ma sœur et mon frère ont pensé à mettre cette musique quand elle est partie en terre. Et c'était une musique qu'on lui offrait et qu'on lui chantait pour la fête des mères.
Et Luis Mariano, vous l'avez vu
Oui, alors en plus, avec je l'ai vu, maman. Puisque maman était fanat de Luis Mariano. Donc, on est allé au Châtelet deux fois le voir quand il jouait l'Auberge du Cheval Blanc. Et bien entendu, depuis que maman est morte, j'ai été à Arkhang, sur sa tombe, qui est toujours fleurie. Et moi, j'ai rajouté une fleur au nom de ma maman.
Ah voilà, et pour les routards qui apprécient Luis Mariano et les autres d'ailleurs, ce cimetière d'Arkhang près de Biarritz, ça, c'est vraiment très bucolique, tout en pelouse, d'un calme incroyable. On a presque envie de s'y faire enterrer. Alors, Philippe Louhagen, vous avez choisi d'inviter Charlotte Bruel, directrice de la compagnie des Bateaux-Mouches, qui fête son 70e anniversaire. On va l'accueillir dans une seconde. Mais pourquoi elle? Pourquoi les Bateaux-Mouches?
Parce que d'abord, elle dirige un monument historique. Et moi, j'ai une histoire par rapport aux bateaux-mouches. C'est que j'avais 10 ans quand mon père m'a amené pour la première fois sur un de vos bateaux. Et je m'en souviens encore. Parce que la Seine, c'est, vous le savez, Charlotte, la plus belle avenue du monde. Et ce n'est pas du tout les Champs-Élysées comme on le prétend. C'est vous qui vous occupez de la plus belle avenue du monde. Et c'est un souvenir extraordinaire. D'autant plus que les gens ne le savent pas, surtout pas les Parisiens, que le premier prix pour aller sur les bateaux-mouches, c'est 14 euros, je crois.
On a toujours l'impression que ça va coûter un bras, mais pas forcément. Quel accueil, en tout cas. Bonjour, Charlotte Bruel.
Bonjour.
2 600 000 visiteurs par an, donc vous le disiez. Quatrième attraction touristique payante de la capitale après la Tour Eiffel, le Louvre et le Centre Pompidou. Racontez-nous un petit peu comment votre père a eu cette idée, parce que ça n'existait pas, cette idée folle de proposer aux touristes de voyager la capitale en bateau.
Eh bien, au sortir de la guerre, en fait, mon père faisait plein de métiers différents, des races de vaches au Mexique, des boutons pression à vendre aux Esquimaux. Et là, il attendait des homards australiens qui ne sont jamais arrivés.
Il attendait des homards. Il était dans le quartier de la Tour Eiffel.
Et donc, il a repris un bateau qui était un bateau de l'exposition universelle qui servait de bateau omnibus. Mmh. Et il s'est dit que c'était une autre façon d'utiliser, était de faire un tour d'une heure et quart. Et que là, on est au cœur de Paris, les plus beaux monuments de Paris sont là. Et puis surtout, vous êtes sur la Seine. Donc c'est l'apaisement et la douceur d'être au bord de l'eau.
C'est vrai que finalement, la topographie vous aide bien, parce que la plupart des monuments de Paris sont visibles de la Seine. Ça, c'est assez étonnant.
Mais la Seine, Paris a été construit autour de la Seine. Donc le mouvement des Parisiens, le mouvement des nôtres, le mouvement de tout ce qui est l'histoire de Paris et existe autour de la Seine. Donc on a en même temps quelque chose de qui peut vous éduquer, qui peut vous faire apprendre plein d'histoires passionnantes, et en même temps le bonheur d'être apaisé.
Alors vous parliez du bonheur, on entendait Philippe Louhagen qui nous disait, moi gamin de 10 ans, je suis monté sur ce bateau mouche,
et je m'en souviens.
Et j'ai pris une grande claque, mais enfin une claque positive.
Alors ce que ne dit pas Charlotte, qui est quelque chose d'assez étonnant pour celui qui n'a pas eu le bonheur d'aller sur vos bateaux, c'est le calme. C'est-à-dire, comme les bateaux sont en contrebas par rapport au bruit de la ville, eh bien, vous avez un calme absolu quand vous traversez Paris. C'est unique.
Ouais.
Et on l'oublie en définitive.
Alors, aujourd'hui, c'est une flottille de 15 bateaux qui emploie 600 personnes. Alors, c'est vrai, Philippe Louhagen disait, je crois que le premier prix, c'est combien
14 euros.
14 euros.
Voilà, 7 euros pour un enfant, 14 euros pour un adulte. Et pour les 70 ans, on a eu le bonheur qui était le week-end dernier, on a eu le bonheur d'inviter 2500 personnes qui avaient 70 ans. C'est toujours
un plaisir.
Et
qui, j'imagine, pour la plupart, n'avaient pas fait l'expérience des bateaux-mouches.
En tout cas, depuis un longtemps. Ouais.
Cela dit, chaque bateau a un restaurant plus ou moins gastronomique. Ça peut être aussi du haut de gamme, voire du très haut de gamme.
Chez moi, c'est du frais, c'est du cuisiné sur l'instant. Et chaque bateau-restaurant a sa propre cuisine. Et c'est quelque chose qu'on aime faire, c'est-à-dire faire le travail du début à la fin et de donner du frais, du bon
et du romantisme. J'imagine qu'il doit y avoir des déclarations d'amour sur les bateaux-mouches.
Oui, bien sûr. bien sûr.
Ça doit
on a même une table qu'on voit, ça s'appelle un pari pour un oui. Donc, ouais. Donc en fait, vous êtes dans une table blanche alors que le plateau est dressé de rouge et puis vous êtes chouchouté. Le capitaine descend, vous offre des cadeaux et vous êtes donc au milieu des gens. Et en général, c'est là où on les demande en mariage se font.
Oui. C'est-à-dire que si la jeune femme se voit effectivement dans cet environnement, elle peut supposer que...
Mais en fait, quand ça se passe mal et que ça se passe mal au début de la soirée, après, il y a quand même 2h15 à tenir.
Oui, il faut faire attention, vaut mieux pas dire.
Sans prendre de coups de couteau.
Juste un mot, et là, on va aussi peut-être parler de la question plus générale de l'environnement et de la lutte contre la pollution dans le cadre du tourisme. Les bateaux, ça pollue.
Oui. Les bateaux, ça pollue, donc on travaille depuis toujours pour que ça pollue moins. On a une espèce d'horloge où tous les ans, on se dit qu'on doit baisser notre empreinte carbone. Donc le travail a commencé depuis très longtemps, mais on travaille encore sur un bateau à hydrogène qui est très compliqué à monter parce que l'hydrogène, c'est l'opposé d'un moteur à explosion. Donc c'est des concepts très nouveaux, mais qui fonctionnent. On va même sur la Lune avec l'hydrogène. Ouais. Donc
vous allez avoir à la compagnie des bateaux mouches un bateau à hydrogène.
Voilà. Et pour l'instant, parce que c'est les pas les uns après les autres, pour l'instant on travaille sur du gaz liquide, qui est la prochaine étape, qui est déjà une étape écologique pour l'intérieur de Paris, mais comme l'écologie c'est aussi du début jusqu'à la fin de la chaîne, c'est des étapes les unes après les autres, mais qui ont commencé quand déjà j'avais 7 ans et que mon père essayait des biocarburants qui sentaient épouvantablement mauvais et qui ont fait qui nous ont au moins fait beaucoup rire parce que ça propageait des odeurs épouvantables.
Bien sûr, ouais. Alors cette préoccupation des bateaux mouches, Philippe Goaged, elle est valable dans tout le monde du tourisme qui s'est beaucoup démocratisé, le tourisme aérien. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui est né en Suède, qui gagne petit à petit le reste des pays européens, de plus en plus de personnes qui rechignent, voire refusent de prendre l'avion, tout ça pour protéger la planète. Est-ce qu'il faut en tenir compte? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous en tenez compte au retard?
Bien entendu, c'est fondamental. Il faut laisser à nos enfants la belle planète que nous avons héritée de nos parents. Il y a un mouvement qui est très, très intéressant. C'est l'agence de voyage Voyageurs du Monde qui travaille sur la compensation carbone. Donc, à chaque fois que vous prenez l'avion, ils prennent une petite taxe assez minime, d'ailleurs, et ils plantent des arbres. Et cette compensation carbone est vraiment majeure, et c'est vrai qu'au Guide du Routard, on y pense.
En tout cas, merci d'être venu saluer Philippe Goaged. Hein,
merci à vous.
Et nous saluer Charlotte Bruel. Donc, longue vie, et bon anniversaire,
merci.
70 ans. Et puis, on suivra évidemment l'arrivée de ces bateaux verts. Hein. Peut-être auront-ils une couleur particulière d'ailleurs pour...
Toujours pour plus il faut faire.
Voilà.
C'est des petits pas mais il faut avancer.
Merci beaucoup en tout cas. Vous
dire Madame Bruel, en plus, j'ai tous vos disques.
Ah. Oui, effectivement. Mais je crois que ce n'est pas de la vie de famille. Tiens, par contre, pour vous, Philippe Goaged, j'ai une petite Madeleine de Proust.
Je vois bien qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours.
Si ces messieurs veulent bien me les confier.
Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente.
Mais pas nous. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
Pourquoi pas? Au contraire. Les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse.
Mais oui, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Les tontons flingueurs de Georges Dautner en 63, dans la cuisine, Ventura, Blier, Lefebvre, Blanche. Ça, c'est juste avant qu'il ne cerise sur le bizarre. Hein. Vous savez, cette boisson qui rend aveugle,
voilà.
Et dans laquelle il n'y a pas que de la pomme. C'est juste avant.
C'est déjà dans la cuisine. Et ce qui est assez amusant, j'ai rencontré une fois Georges Dautner à l'île de Ré, et il m'a avoué que tout avait été tourné dans une villa à côté d'ici, à Rueil-Malmaison.
Ah bon, très ouais. Très bien. En tout cas, ça fait partie de vos films fétiches, ça aussi. On marque une pause, hein. On est dans le journal inattendu de Philippe Goaged sur RTL. À tout de suite.
Le journal inattendu de Philippe Goaged avec Vincent Parisot sur RTL.
Du 12 au fond.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Philippe Goaged et Vincent Parisot.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents.
Georges Moustaki, le métèque en 68, balade qui parle d'un étranger un peu éthéré, rêveur, sans attache. Cette chanson, vous l'avez choisie parce qu'elle vous parle aussi ?
Oui, parce que c'est mes premiers voyages, c'est les années 75, et il était d'origine grecque d'Alexandrie, et j'ai visité pour la première fois la Grèce avec cette
en écoutant
musique
en
tête.
Le métèque de Moustaki. Philippe Gouagen, vous nous avez demandé un reportage sur l'association Agir pour le Cambodge, dont vous êtes l'un des fondateurs, on va le préciser. Alors, je vous propose de l'écouter, un reportage formidable, on en parle juste après. Ce reportage est signé Raphaël Aubert.
Sur l'écran de son ordinateur portable, Meng fait défiler quelques photos d'elle en uniforme devant des hôtels de luxe, des souvenirs de ses premières années dans la vie active.
Dans cette photo-là, ça fait pas longtemps après ça là-bas, et j'ai fini la réunion avec les clients. J'ai souri avec confiance. J'étais chic, ma jupe, escarpins. C'est vraiment complètement différent des femmes dans le village.
Le village de Meng se trouve à 60 km à l'est du temple d'Angkor et de Salabai. La jeune femme y grandit dans une pauvreté extrême. Elle n'a pas les moyens de faire des études, mais une annonce à la radio change la donne.
J'ai entendu l'annonce d'Agir pour le Cambodge qui donne de la formation gratuite. Je me suis inscrite. J'ai trouvé le travail tout de suite dans un grand hôtel, 5 étoiles. Je suis très fière de Salabai. 15 ans avant, mon rêve, c'est installer mon propre société.
Son rêve, Meng l'a réalisé. Elle est aujourd'hui à la tête de sa propre agence de voyage.
Pour nous, c'est une grande fierté de les voir évoluer après.
Claude Colombier, président de l'association Agir pour le Cambodge et ancien directeur de l'école.
100% des élèves trouvent un emploi à la sortie. Eux vont sortir de l'école avec un salaire approximativement autour de 150 à 200 dollars par mois. Donc c'est pas beaucoup pour nous occidentaux, mais on sort du cycle de la grande pauvreté et donc ces jeunes, ils vont aussi aider leurs familles.
Des familles qui gagnent moins de 1000 dollars par an. C'est l'une des conditions d'entrée à Salabai. L'école recrute aussi 70% de filles plus vulnérables face à la pauvreté. Le chef aux 3 étoiles, Régis Marcon, parrain de l'école, se rend régulièrement sur place.
Le fait de travailler avec eux, avec ce sourire permanent sur leurs lèvres, ça nous impose à être dans cette ambiance assez heureuse, je dirais, même si c'est pas toujours facile. Et puis surtout, leur impliquer un petit peu toutes les notions d'hygiène alimentaire. Le fait d'être à Salabai, ça donne du sens à notre métier de tous les jours.
La formation dure un an, mais rien n'empêche les élèves de poursuivre leurs études. C'est le cas de Sreyrot, 27 ans. Agir pour le Cambodge lui a permis de décrocher un entretien dans la prestigieuse école de cuisine Ferrandi.
Le répond pour l'entrée, c'est dans 10 jours. Je crois les doigts et que j'ai pu avoir ce que je voulais faire. Peut-être dans 10 ans, je vais retourner au Cambodge avec mon mari. On a un projet pour là-bas, c'est ouvrir un restaurant. Je vais tout faire pour aider Salabai.
Si vous souhaitez vous aussi aider les jeunes de Salabai, vous pouvez faire un don à Agir pour le Cambodge ou tout simplement vous rendre sur place. Le restaurant et l'hôtel d'application de l'école tenu par les élèves sont ouverts aux touristes.
Un reportage de Raphaël Aubert. J'imagine que c'est émouvant. Pour vous d'entendre les témoignages de ces deux jeunes filles.
Oui, c'est assez fort parce que le Cambodge, j'y suis allé, j'ai eu la chance de rencontrer l'ONU en 92 et j'ai été avec les militaires de l'ONU qui nettoyaient les dernières poches de Khmer Rouge qui étaient à Angkor parce que
ils se cachaient dans,
dans les temples d'Angkor. Et quand je me souviens de la date où Pol Pot a pris le pouvoir, 75, c'était hier. Hein, c'était pas si vieux que ça. C'est notre génération. C'était les années Giscard. Et l'ambassade de France a été absolument nulle sur cette affaire. On n'a accueilli personne. Alors que à l'époque, Allende, l'ambassadeur de France, donc dans les années 73, a accueilli les réfugiés chiliens. Ils ont sauvé 600 personnes qu'ils ont réussi à exfiltrer. Et je me suis dit, nous, Français, on a une dette vis-à-vis du peuple cambodgien. Le Cambodge était un protectorat français. C'est à nous, maintenant, de les aider. Et je suis ravi de travailler sur Salabai, ce qu'on appelle l'école du riz en cambodgien, pour aider tous ces jeunes. C'est normal qu'on s'occupe un tout petit peu d'eux.
On va marquer une courte pause. Dans un instant, on vous retrouve pour un petit coup de gueule et pour un invité. Je pense que ça sera une bonne surprise. À tout de suite.
D'accord.
Meister.
12h30, 13h30.
Le journal inattendu de Philippe Gloaguen avec Vincent Parizeau sur RTL.
Et Philippe Gloaguen, le patron du guide du retard dans le journal inattendu, va nous pousser un coup de gueule un peu inattendu aussi. Vous voulez parler des étudiants en médecine, des étudiants en première année de médecine.
Oui, qui passent les examens de première année. C'était là, il y a quelques jours. Et d'ailleurs, on en a très très peu parlé dans la presse. Eh bien, cette promotion d'élèves première année n'ont pas le droit de redoubler, tout simplement parce que l'année prochaine, il y a un nouveau cursus, c'est la réforme. Et quand on sait qu'il manque autant de médecins en France, qu'il y a des déserts médicaux en France, je trouve que c'est une incompréhension. Et je fais un appel à Madame Macron, qui est prof et qui a toujours été extraordinaire vis-à-vis des élèves, de penser à ces élèves, parce qu'on a besoin d'eux. Moi, ils m'ont sauvé la vie. On a besoin des médecins. Et même ceux qui sont en fin de première année, qu'ils aient la possibilité, qu'ils aient une deuxième chance.
Voilà, le coup de gueule et l'appel à Brigitte Macron, du patron du guide du routard, Philippe Gloaguen. Il nous reste pas plus de 2 minutes 30. J'espère que vous allez rapidement reconnaître qui est au bout du fil pour vous faire un petit coucou en passant. Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour, cher Philippe.
Alors, vous n'avez pas été reconnu tout de suite, alors on va peut-être aider. Vous êtes à Londres, hein, je crois. Peut-être êtes-vous au sketch, alors
ça donnerait... Tout à fait, absolument.
Ça va donner un indice à Philippe Gloaguen. Est-ce que vous savez qui est en ligne avec nous?
Oui, bien sûr. Bonjour Pierre. C'est bonjour, formidable.
Pierre Gagnère est avec nous, merci d'être
qui
en direct.
Qui est venu à Salabaille faire gratuitement un enseignement, il a offert avec sa femme un repas à tous les élèves dont on s'occupe au Cambodge.
Ça devait être une grande expérience, ça aussi, Pierre Gagnère, j'imagine, ce voyage à Salabaille. Hein.
Oui, c'est un souvenir très émouvant, effectivement. Puis il y a déjà quelques années, et c'est vrai qu'il y avait encore les traces de ce terrible
génocide.
C'est vrai que c'est... Voilà. Et depuis, j'ai la chance d'avoir un restaurant au Vietnam. Et c'est vrai que grâce à ce restaurant en direct, là, on forme des gens et qui ont le sourire, qui ont envie d'apprendre, qui ont une espèce d'énergie qui parfois fait du bien quand on voit en France où on est toujours un peu souffreteux, en train de gémir et de se plaindre. Voilà.
Vietnam, c'est à Da Nang, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres restaurants. Il y a les trois restaurants parisiens, évidemment, notamment le Balzac, mais pas seulement. Et puis Londres, Tokyo, Séoul, Dubaï, Hong Kong, donc Da Nang au Vietnam, Las Vegas, Bordeaux, et j'en ai oublié.
Le Pierrot qui vient d'ouvrir, qui est un restaurant italien très abordable dans le 6e.
Ça veut dire, Philippe Gloaguen, que Pierre Gagnère, c'est un peu un routard aussi, à sa manière.
Absolument. Ouais, il a du cœur, il s'intéresse beaucoup aux gens et je n'arrête pas de lui répéter, j'adore sa cuisine, qu'il pense un jour peut-être à ouvrir un restaurant.
On sent qu'il y a beaucoup de respect entre vous deux, en tout cas. Vous vous appréciez beaucoup.
Ah, vous savez, moi, je ne sais pas si j'ai le temps de leur raconter l'histoire. C'était,
allez-y rapidement.
Il y a quelques années, c'était, je crois, au Vietnam, d'ailleurs, avant que j'aie mon restaurant. Et le guide du routard indiquait un restaurant qui s'appelait chez Paul, près du pont, dans un endroit un peu improbable. Oui. Et on arrive avec ma femme, effectivement, au sac à dos. Et il y avait plein de restaurants Paul. Parce que j'avais compris que le guide du routard, ça marchait.
Pierre, ne nous embête pas, parce que sinon... on ouvre un restaurant chez Pierre Balzac. Hein.
Merci beaucoup, Pierre Gagnère. On vous laisse évidemment au fourneau de ce sketch à un restaurant incroyable à Londres. Merci de ce clin d'œil. Merci d'être venu.
Merci de m'avoir
Philippe
invité.
Philippe Gloaguen, le patron du guide du routard.
J'ai passé un très bon moment.
Et nous aussi. Et évidemment, dans un instant sur RTL, vous serez avec Confidentiel de Jean-Alphonse Richard, consacré aujourd'hui à Jim Morrison. Et la semaine prochaine, nous serons avec Maxime Le Forestier. Bonne semaine.
RTL. Le journal inattendu. Machine.